Et à laisser les conversations pour tout à l'heure. Il y aura du temps encore. Voilà, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par les annonces, comme ça sera fait. Alors, quelques annonces. Donc, ce mardi, le 15 octobre, atelier biblique avec Philippe Anchaud et le docteur Raymond Bessy. À 20h, sur la santé, la maladie, la guérison, c'est ça, voilà. Ce vendredi, le 18 octobre, il nous reste 5 jours pour le concert du groupe Écriture à 20h. Les infos et les billets auprès de Thierry Terra, qui n'est pas là ce matin, mais voilà, vous retrouverez ses coordonnées au besoin. Et puis, troisième annonce, l'action Paquet de Noël est en route, donc je crois qu'il y a des tirelires qui sont à disposition ici dans le foyer pour déposer vos dons. Et puis pour la confection des paquets, vous pouvez aussi vous inscrire sur la feuille qui doit être dans le foyer. Je ne vous donne pas tous les détails, mais vous pouvez les trouver dans l'Actu Mérin ou auprès d'Anne-Marie Wenger ou de Annick Dubost. Voilà, et je laisse la place à notre président pour un retour sur le dernier colloque, je crois.
Merci, bonjour à tout le monde. C'était l'occasion, je n'ai pas eu depuis 15 jours l'occasion de faire un petit retour sur le colloque qui s'est déroulé le vendredi 27 septembre. Comme tout le monde n'est pas forcément disponible pour venir un vendredi soir, c'était l'occasion de pouvoir communiquer un peu plus largement sur les discussions que nous avons pu avoir au colloque. Parce que le colloque, donc, c'est une assemblée générale de notre association, l'Église est en association, et ça permet de parler de sujets, de finances, d'organisation, mais aussi de vie d'Église, notre structure même de notre association. Alors, contrairement à ce qu'avait dit Thierry, comme quoi des fois c'est un peu ennuyeux, au contraire, c'est des bons moments, on a pu bien discuter sur différents sujets, donc c'était un moment de participation qui est intéressant. Je vous encourage pour la prochaine fois. Les sujets qui étaient importants et où on voulait vous faire un retour, c'est qu'on a pu valider un groupe pour le renouvellement du conseil. L'année prochaine, le conseil va être renouvelé. Et donc c'est une manière pour nous d'avoir un groupe indépendant qui va sonder l'Église pour savoir quel conseil on aura à partir de l'année prochaine. Donc ce groupe a été validé. Si vous avez envie de savoir les noms des personnes du groupe, vous pouvez venir après le culte vers moi. Je vous dirai les noms des 7 et 8 personnes qui sont dans ce groupe. Nous avons eu aussi l'occasion de parler de travail de différents groupes, notamment groupe communication sur la mise à jour du site internet, de sa sécurité, mais aussi de son look. Donc il y a tout un travail qui a été fait, des questions aussi sur le logo. Et puis mandat leur a été donné d'avancer dans cette direction et de se revoir la prochaine fois pour valider différentes choses. Nous avons aussi vu un groupe qui fait le lien avec le groupe bâtiment pour la manière d'aménager certains espaces et les besoins en lien avec de l'accueil. Et puis il y a différentes propositions qui ont été faites, notamment pour certaines salles, pour les jeunes en bas, et ça vous verrez la suite au prochain colloque. Je m'arrête là. Merci
Roxane, on peut lancer la vidéo, merci.
Sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant, they'll never be ashamed, they'll
Pas vous, mais moi, quand j'entends ça, quand je suis en train de courir, puis que j'ai un peu de peine parce qu'il y a une montée là, et ben, je me mets ça dans les oreilles et puis tac, ça me redonne de l'élan. Psaume 34. Ce chant, c'est un psaume 34 qui nous invite à magnifier le Seigneur, à exalter son nom, à le glorifier. Et c'est bien pour bénir son nom que nous sommes là ce matin. Ce psaume 34 nous accompagnera ce matin et il nous dit aussi « Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien. » Il recherche la paix avec persévérance. Pratiquer le bien, rechercher la paix avec persévérance. Alors qu'autour de nous, tout ce qu'on entend a plutôt des allures de chaos. Je vous donne en vrac quelques mots que j'ai entendus ou vus cette semaine en lisant, en écoutant. Notamment en lien avec l'actualité. C'est un peu tout mélangé, mais c'est fait exprès. Les massacres se succèdent. L'ouragan Milton frappera, ça c'était début de semaine, hein, avec des vents jusqu'à 250 km/h, de fortes pluies, des vagues destructrices. Selon les spécialistes, ce genre de phénomène se renforce en intensité et en fréquence. Un cauchemar sans fin au Proche-Orient. À Marseille, des tueurs sont âgés de 14 ans. Pourquoi ces jeunes jouent-ils du couteau ? À Lancy, pas très loin d'ici, une série de tags antisémites a été découverte. Crac dans le quartier des Grottes. Un climat d'insécurité s'installe. Le Liban sous les bombes. Le nombre d'actes de violence à l'encontre des HUG et de leur personnel ne cesse de croître. Bon, je m'arrête là. Hein. Franchement, quand j'ai commencé à faire ça, après j'ai dit j'arrête d'écouter, de regarder l'actualité, je pense à autre chose. Hein. Ben ouais. Conflit, climat, les jeunes en rupture, la violence, et j'en passe. Je sais pas vous, mais moi, parfois, tout ça, ça me donne le vertige. Ça m'inquiète, ça m'angoisse. Dans quel monde est-ce qu'on vit ? J'ai écrit un monde à la dérive, point d'interrogation. Quel sentiment face à tout cela ? De l'angoisse ? Une grande impuissance ? Moi, franchement, si j'y réfléchis à tout ça, je me sens complètement dépassée. On partageait ça avec Philippe et avec Mathieu en préparant ce culte. Combien de situations nous dépassent, mais complètement. Que ce soit face à cette actualité qui est anxiogène ou alors dans des situations peut-être plus personnelles, on a l'impression de n'avoir prise sur rien, aucune influence. Même la petite chose qu'on peut tenter de faire, je ne sais pas, trier ses déchets, enfin, les petites choses qu'on peut faire à notre échelle, ça semble être qu'une goutte d'eau. Et pourtant, ce matin, Dieu nous invite. Il nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Venez, mes enfants. » Moi, je trouve que c'est plein de tendresse. « Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai. » Je vous invite à prier. Père, nous sommes tes enfants et nous sommes là ce matin ensemble pour écouter ta parole. Comment rechercher la paix alors qu'autour de nous, la guerre, les conflits, les scandales, les dérèglements, tout ça, ça fait rage. Nous sommes impuissants, Père, face à l'ampleur de ce qui nous environne et nous dépasse. Et pourtant, tu veux nous parler ce matin. C'est bien que tu as encore quelque chose à nous dire. Alors donne-nous d'être ouverts à ta parole et à l'écoute. Amen. Alors maintenant, j'aurais besoin de quelques courageux. On va tenter une petite expérience. Il va falloir goûter quelque chose. C'est là-dessous, je le préparais tout à l'heure, et puis il y a une personne qui a regardé ça, elle me dit, c'est quoi ? C'est un peu bizarre comme aspect, mais ça se mange, hein, sans problème. Ça, je vous le dis, je l'ai testé, je le fais de temps en temps à la maison, ça marche. En plus, c'est une spécialité du nord de l'Italie. Alors franchement, les Italiens, ils mangent super bien. Vous aimez les pâtes, les enfants ? Ah ben voilà. Alors c'est pas des pâtes, mais c'est autre chose. Alors voilà, je sais pas s'il y a quelques courageux, hommes, femmes, enfants. Ouais, vas-y, allez, un ou deux. Ah, il y a que les enfants qui veulent venir. Moi j'aimerais bien un ou deux grands. Hein. Alors j'ai pas besoin de 30 tant de personnes. Hein. Ah, oulala. Ah ouais, mais t'es du sud, hein, toi. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ils mangent mieux dans le sud, d'ailleurs, à mon avis. Si, tu peux goûter. Alors, en fait, vous allez devoir comparer. Hein ? Vous allez devoir comparer. Vous prenez un petit morceau là, puis après, on fera la deuxième assiette. D'accord ? Ok. Non, c'est pas du fromage. Vous goûtez. Vous goûtez, vous dites comment c'est. Tu veux aussi ? Ah, il n'y a pas de goût, elle a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ah, c'est la polenta, exactement. Ça sent, les Italiens, quand même. Alors, comment c'est ? C'est spécial. C'est de la polenta. C'est du maïs, mais c'est de la polenta blanche. Ah, mais Natalina, c'est pas fini, hein. Il faut goûter un deuxième morceau. Ouais. Ça va, là, jusque-là ? C'est quelqu'un a dit, ça n'a pas trop de goût. Vous êtes d'accord ? Ça n'a pas beaucoup de goût ? Pas beaucoup, ok. Allez, on va essayer l'autre, alors. On essaye celui-là, puis vous direz comment c'est. C'est toujours de la polenta. Hein. C'est la même chose. Ça a le même goût ?
Non ?
C'est plus salé. C'est plus salé ?
Ouais.
C'est plus salé, elle a dit. On va attendre l'experte italienne.
Ah, elle est meilleure.
Elle est meilleure. Ouais. T'es d'accord, Claude ? Vous sentez la différence ? Ouais ? C'est mieux le premier ou le deuxième ? Le deuxième, hein. Vous êtes d'accord, hein ? Ok. Ah, on peut repiquer un taf. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est très bon froid, mais bon. Vous êtes d'accord, les enfants ? Meilleur le deuxième ? C'est salé. Ok, c'est salé. Très bien. Ok. Ben, merci. Vous avez été courageux, hein, les enfants. Et je crois que maintenant, le temps pour les enfants de rejoindre vos groupes avec vos moniteurs, avec Chantal, je crois. Voilà, et Monique. Voilà, je laisse la place à Philippe.
Bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai un petit doigt. Ah, voilà, super. Merci. Merci Daniel. On a préparé effectivement, c'était encore la semaine dernière, avec Mathieu et Daniel, le déroulement de ce culte. Et on s'est posé ensemble quelques questions du style de celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut bien faire face à une crise ou la crise ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand la maladie nous frappe ? Ou frappe notre entourage ? On a un atelier biblique mardi soir, spécifiquement sur ce sujet, avec une intro de ma part, et puis le docteur Raymond Bossy sera aussi avec nous, évoquer le sujet des médecines parallèles, des médecines de recours, la fin de vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand la maladie, la dépression, le handicap ou le deuil frappent notre entourage ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine ? Parle moins de l'Ukraine, hein, un conflit en chasse l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Gaza, pour le sud Liban ? Notre ami Robert Akoury, le prêtre de la Visitation, libanais lui-même, a toute sa famille dans la plaine de la Beka. Et il me disait cette semaine que dans les 3 semaines, 4 semaines qui venaient, ils craignaient dans les villages chrétiens des premiers bombardements parce que les populations, y compris des populations musulmanes, venaient se réfugier dans des villages chrétiens. Des bombardements ont commencé hier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants abusés ? Pour ces gens qui sont tenus sous tellement de formes d'esclavage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète, pour les misères à notre porte ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à une injustice dans le voisinage, à l'école, à la fac ? Sur notre lieu de travail, dans une assoce, un club de sport. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive à la retraite et que tout change en l'espace de quelques heures, quelques jours ? Moi, je trouve qu'il y a tellement d'événements qui sont tout proches de nous ou très loin de nous, qui mettent en évidence notre impuissance. Les problèmes sont compliqués. Nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons pas prise sur tout. Nous voyons le monde s'étioler et un océan de larmes ne suffirait pas pour pleurer la méchanceté des hommes et les souffrances qu'ils s'imposent les uns aux autres. À notre époque numérique ultra rapide, nous croyons encore trop souvent au mensonge selon lequel nous sommes illimités, surpuissants, alors qu'en réalité on est tellement limités. En regardant notre monde, parfois à notre propre porte, nous avons de quoi nourrir un sentiment d'impuissance. Alors, sommes-nous impuissants, impuissantes ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et je crois que nous pouvons avoir une belle influence autour de nous. Et pour réfléchir un petit peu à cette influence que nous pouvons avoir autour de nous, nous reprenons ce matin notre lecture du Sermon sur la montagne. Nous revenons dans Matthieu 5 et nous allons écouter la lecture ou la suivre à l'écran des versets 13 à 16.
C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux.
Merci. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le sel de la terre. Il y a longtemps, on formait des convois avec des centaines de dromadaires pour traverser le Sahara avec des grands blocs de sel à dos de dromadaires. Les convois sont réduits aujourd'hui et ce sont plutôt des camions qui assurent le transport. Mais le sel continue à traverser le désert. Le sel, indispensable à la vie humaine. En Israël, autrefois, le sel provenait de la mer morte. On ramassait les dépôts qui se formaient au bord de l'eau. Alors, il ne faut pas imaginer un sel blanc comme vous allez en mettre sur vos frites ce midi, parce qu'il y avait beaucoup d'autres sels minéraux qui se cristallisaient avec le sel. Mais si ce sel était trop longtemps exposé à l'humidité, eh bien ce sel devenait un sel de mauvaise qualité et pouvait perdre tout ce qu'il contenait de vrai sel. Il n'était plus bon à rien. Et il ne restait, comme le dit le texte de Matthieu 5, qu'à le jeter sur le bord des routes. Ça ne servait à rien. Le sel qui perd sa saveur. Aujourd'hui, avec notre sel à nous, c'est plus trop possible ça. Parce que vous avez dans votre assiette, quand vous mettez du sel, du chlorure de sodium à l'état pur, ou presque. Mais à l'époque, tout le monde savait que le sel ramassé au bord de la mer morte pouvait perdre ses vertus salantes. Ce sel qui donne du goût aux aliments, ce sel qui les conserve, qui les empêche de pourrir, ce sel qui est le signe de l'hospitalité, ce sel qui est ajouté au sacrifice d'Israël pour rappeler l'alliance entre Dieu et son peuple, Lévitique 2, verset 13. Ce sel peut perdre sa saveur. Et le mot que Jésus utilise dans Matthieu 5 pour dire perdre sa saveur signifie en fait devenir sot, stupide. C'est le mot tapel en araméen. Moreino en grec. Jésus ne nous demande pas d'être le sucre de la terre, mais d'en être le sel. Perdre sa salinité, c'est s'émousser, c'est perdre sa pertinence. L'apôtre Paul dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Et si nous, chrétiens et chrétiennes, nous perdions notre saveur, comment pourrions-nous perdre notre saveur? Eh bien, en baissant les bras, en disparaissant de la circulation, en endossant une certaine mollesse, une certaine tiédeur. Comment? En gommant nos spécificités, en nous fondant dans la masse, parce que vous savez bien ce que c'est, n'est-ce pas? Vous avez tellement envie d'être accepté par le groupe, de parler comme le groupe, de faire comme le groupe, que tout ce qui pourrait vous démarquer, ça vous fout les jetons. Vous avez peur. ce savoir différent en tant que chrétiens et chrétiennes, mais vouloir être pareil que les autres, indifférencié, surtout qu'on ne nous voit pas. Mais si nous perdions notre identité, si nous perdions notre spécificité, nous ne serions utiles à personne. Il faut se démarquer par notre saveur. Comment ? Parce qu'il faut être pratique là. Comment ? Comment est-ce qu'on va se démarquer par notre saveur ? Alors, ça se connaît chez les chrétiens. On peut le faire sur un ton de supériorité. Moi, je sais. Vous, vous ne savez pas. Moi, je marche droit, mais vous, vous êtes des tordus. Moi, j'ai la bonne religion. Vous, vous avez la mauvaise. Si c'est cela que les gens comprennent quand vous ouvrez la bouche, ils vous traiteront d'hypocrite. Et vous l'aurez bien cherché. Il faut simplement rester soi-même. Juste chrétien, chrétienne, fier de l'être, humble et droit dans ses bottes à la fois, convaincu mais sans agresser les autres, clair mais sans rien imposer. Moi, le dimanche, ce que j'aime, c'est d'aller au culte. Et si possible, d'arriver un tout petit peu avant le début de l'heure du culte pour profiter de mes amis. Mais moi, ce que j'aime le dimanche, c'est d'aller au culte. Ça, c'est mon truc. Le dimanche, je vais au culte. Moi, quand je regarde ces couleurs d'automne, j'ai envie de remercier quelqu'un. Moi, quand je pense au sens de la vie, je crois qu'il y a autre chose. Moi, quand je vais au spectacle, quand je vais voir un match de foot, je me réjouis de la beauté du monde. Parce que derrière la beauté du monde, il y a quelqu'un de généreux. Vous avez remarqué, les gens adorent parler de leur vie. Il n'y a plus que ça partout à la télé et sur Internet. Les gens adorent parler de leur vie. Ben, parlez de la vôtre. Parlez de votre vie. Dites ce qui en fait l'épaisseur, le sens, la profondeur, la complexité. Parlez de votre vie. Dans notre passage, Jésus parle de sel et de lumière. Pourquoi est-ce que ça vient ensemble ? La chèvre et le chou, le beurre et l'argent du beurre, pourrait dire que tous les deux sont indispensables à la vie. Et c'est vrai, le sel et la lumière. Mais le point qui les relie ensemble, il est plus subtil, je trouve, dans notre texte. Le sel peut perdre sa saveur. La lumière peut être cachée sous un seau. Dans les deux cas, ils ne remplissent plus leur rôle. Et à ce moment-là, c'est un immense gâchis. Parce que ce pour quoi ils sont faits, ils ne le font plus. Et c'est du gâchis. Pour renforcer là, l'idée que nous sommes la lumière du monde, Jésus utilise l'image de la ville bien visible, de la lampe qui est mise en évidence. Vous qui aimez voyager, pas très loin, vous savez peut-être que dans le sud de la France, on trouve un certain nombre de villages pittoresques, qu'on appelle les villages perchés. Ils sont souvent au sommet d'une colline et donc assez faciles à repérer. Puis en plus, ça fait des superbes cartes postales. En Galilée, les villes étaient justement construites sur le flanc des collines. On pouvait sans doute en voir depuis le plateau où Jésus donne son enseignement, le sermon sur la montagne. Depuis là, on voit ces villes perchées sur les coteaux de Galilée. Des villes différentes, des villes visibles. Parce qu'une ville qui est située sur le coteau d'une montagne, elle ne peut pas être cachée. D'ailleurs, ce n'est pas le but qu'elle soit cachée, elle doit être visible. Et notre but à nous n'est pas de vivre caché, mais de vivre au grand jour, d'être pour les autres des points de repère. En parlant de repère, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce récit admirable d'Alphonse Daudet, repris dans Les Lettres de Montmoulin. Il raconte comment les hommes ont construit un phare sur un rocher en Corse, au large d'Ajaccio, dans l'archipel des îles Sanguinaires, en pleine mer. Ce rocher était accessible seulement quelques jours dans l'année, avec certains courants marins spécifiques. Mais s'il y avait tempête ce jour-là, il fallait attendre 6 mois pour pouvoir revenir. Construire le phare des Sanguinaires allait sauver la vie à de très nombreux marins. Un feu salvateur sur les eaux de la mer. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Vous, vous petites gens de Galilée, c'est vous la lumière du monde. Puis quand je lis ça, je me demande, vous m'excuserez, si Jésus ne commet pas une erreur théologique. Je m'explique. Quantité de passages dans la Bible disent que Dieu est la lumière. Il y a toutes ces prophéties dans Ésaïe qui disent que le Messie sera lui, le Messie, la lumière du monde. Et Jésus l'a dit lui-même, on ne peut plus clairement le concernant. Quand il se définit, il dit, Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Les apôtres l'ont compris après lui. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dieu est lumière. Jésus est lumière du monde. Comment Jésus peut-il dire alors que nous sommes, nous, la lumière du monde? Eh bien, c'est que nous sommes appelés à prolonger sa mission. Paul le dit dans une synagogue à Antioche. Le Seigneur a bien défini notre mission, dit-il, lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Ce qui veut dire que la mission initiale du Messie, d'être la lumière du monde, cette mission, maintenant, elle est reprise par l'Église. Elle est reprise par l'Église. Nous nous inscrivons dans sa lignée, nous répandons sa lumière. C'est maintenant nous qui sommes la lumière des nations. Philippiens 2, verset 15 dit « Brillez comme des flambeaux dans le monde ». C'est nous qui sommes la lumière du monde. Et si nous sommes des disciples, c'est ce que nous ferons, briller. Ah, parfois, le rayonnement est fragile, fragile, mais ça brille. Une lumière d'autant plus forte que nous allons essayer de ressembler au portrait que nous avons médité dans les Béatitudes. Ceux qui brillent sont ceux et celles qui sont heureux, heureuses. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. À qui le dit-il? Pas à une élite. Pas à des stars. Pas à des professionnels de l'Église. Mais à des gens ordinaires, comme vous et moi. Des paysans. Des pêcheurs. Des artisans, des gens de ces petites villes de Galilée, des gens ordinaires et en même temps pas si ordinaires que cela, parce que ceux et celles qui sont assemblés au pied de Jésus sont des disciples de Jésus, des apprentis, pas des gens arrivés, des gens en route. Ils essayent de vivre les béatitudes, Ils essaient de développer l'humilité, la générosité envers les autres. Ils veulent répandre la paix autour d'eux. Ils ont faim et soif de justice. Ils sont pétris des valeurs du royaume. Vous, petites gens de Galilée, qui voyez passer tous les jours des soldats romains, vous qui vous faites rançonner à l'entrée des villes par ces fichus collecteurs d'impôts, vous qui êtes gouvernés depuis la lointaine Jérusalem par une caste de prêtres avides de pouvoir, vous qui apparemment comptez pour beurre, vous les petits et les humbles, vous êtes la lumière du monde. Vous, les petites gens de Mérin et des environs, vous qui n'avez rien d'exceptionnel et en même temps tout d'exceptionnel, vous qui voyez se passer des choses horribles à la télévision, sur Internet, vous qui avez peut-être l'impression de ne compter pour rien dans les affaires de ce monde, eh bien c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous avez beaucoup plus à offrir que vous ne le pensez, parce que vous êtes beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai dit l'autre fois que le sermon sur la montagne renferme d'apparentes contradictions. En voici une de contradiction. Au verset 16 qu'on vient de lire, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. Puis au chapitre suivant, qu'on méditera dans quelques semaines, au verset 1 à 4, Jésus il dit l'exact contraire. Il dit que quand on donne quelque chose aux pauvres, que quand on prie, quand on jeûne, eh ben il faut que personne le sache si ce n'est Dieu. Il y a une contradiction, non ? Faut voir ou faut pas voir ? C'est là qu'on doit faire preuve de réflexion quand on lit un texte biblique apparemment contradictoire. Est-ce qu'on est appelé à être visible ou invisible alors ? Ben, je crois que ça dépend de nos motivations. Là où les gens religieux du temps de Jésus cherchaient à montrer leur piété, Jésus nous en appelle à la discrétion. La piété, c'est perso, c'est communautaire, mais c'est discret. Nous ne sommes pas là pour attirer l'attention sur nous-mêmes. On n'est même pas là pour se donner en exemple ou pour faire honte aux mécréants ou pour élever le niveau des autres. La piété, la foi, elle se pratique devant Dieu. D'ailleurs, franchement, si les gens nous voient aller au culte, je ne suis pas sûr qu'ils vont revoir l'opinion qu'ils ont de nous à la hausse. Ils vont plutôt penser qu'on est un peu bizarre, surtout le dimanche matin, pour être là à 10h moins 10. Quoi. Ou même, ils vont penser qu'on est des hypocrites. Parce que c'est bien connu, toutes les grenouilles de bénitier sont des hypocrites. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Les gens n'ont pas besoin de voir notre foi, d'entendre nos théologies, nos prises de position éthiques ou politiques, religieuses. Ils n'ont pas besoin de ça, en tout cas pas pour commencer. Ils ont besoin d'actes que le commun des mortels peut identifier comme bons. L'honnêteté dans le travail. La résistance à certaines pressions, la droiture dans nos relations, des actes de compassion concrets, un engagement associatif, des services rendus, une main tendue à des personnes seules ou éprouvées. Les gens ont besoin d'actes que le commun des mortels peut identifier comme bons. Il ne s'agit pas d'actes accomplis pour impressionner les autres, mais d'actes qui sont accomplis pour leur valeur universelle en soi. L'apôtre Pierre le dit ainsi, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Pierre, il ne nous demande pas de partager notre théologie. Il ne demande pas que nous imposions notre foi dans l'espace public. Pierre ne nous dit pas qu'il faut qu'on sache en tant que païens dans le monde ce que ces chrétiens évangéliques pensent de des élections aux États-Unis ou de l'homosexualité. Pierre ne dit pas ça, jamais. Pierre dit, on a besoin de voir vos bonnes actions. That's it, c'est tout. Il faut qu'on voit de quel bois vous vous chauffez. Et quand il voit nos bonnes actions, Pierre dit qu'ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ce n'est pas automatique que nos bonnes actions poussent les gens à glorifier Dieu. Nous dirions qu'à quelque part, il faut un moment, un déclic. Il faut que Dieu intervienne dans la vie de la personne d'une manière ou d'une autre. Depuis 10 ans, j'ai le bonheur de collaborer avec une ONG qui travaille en Asie du Sud-Est à la libération des enfants qui sont pris dans des réseaux de traite d'êtres humains. Ça me retourne l'estomac chaque fois que j'en parle. Dans quelques jours, j'y serai pour quelques jours. Merci au conseil. Et puis depuis 10 ans, je suis au contact d'une femme pasteur mennonite absolument remarquable. Une pépite. Et cette femme, quand les gens lui disent « Est-ce que vous êtes chrétienne ?» Ben, ce n'est pas une évidence même hein, en Thaïlande d'être chrétien. Quand on lui dit « Est-ce que vous êtes chrétienne ?» Elle dit « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Mais allez demander à ma famille. Allez demander à mes voisins. Ils vous diront si je suis chrétienne. Qu'ils voient vos bonnes actions. Pas qu'ils vous entendent gloser, qu'ils voient vos bonnes actions. Il y a une condition à cela, elle est délicate, c'est que les gens sachent que c'est Dieu qui nous motive et nous inspire. Que c'est sa grâce qui nous a touchés, que notre conduite n'est que la réponse de la reconnaissance. Nous ne leur aurons pas rabattu les oreilles avec des choses qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre, mais nous n'aurons pas passé sous silence notre identité de chrétien. Le fondement de la théologie chrétienne, c'est la grâce. On en a parlé, vous vous rappelez, avec Johann von Staupitz. Le fondement de la grâce, le fondement de la vie chrétienne, c'est la grâce. Mais le fondement de l'éthique chrétienne, c'est la gratitude. C'est notre engagement. Je conclus. Souvent, nous avons l'impression de n'avoir aucune prise sur ce monde. Nous l'avons dit et nous le redirons jusqu'à notre dernier souffle. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Souvent, nous disons que nous avons bien peu d'influence sur les événements, sur les circonstances. Mais quand Jésus dit que nous sommes sel et lumière pour le monde, il dit que nous avons une influence pour le bien, une influence qu'il ne faut pas sous-estimer. Et voici donc le défi que nous pouvons nous lancer. Ayons du goût. Apportons du piquant. Ne perdons pas notre saveur. Brillons. Brillons fort. Nous empêcherons bien des naufrages, comme le phare des îles sanguinaires. Amen.
Merci Philippe. Je vais laisser quelques instants de réflexion avant de passer à la louange. Nous aimerons rendre gloire à Dieu. Et pour introduire ce moment, je vais me permettre de paraphraser un peu le psaume 34. Pour vous dire que l'ange de Dieu monte la garde autour de nous, parce que nous craignons Dieu. Il nous protège. Alors venez, Église, pour goûter et voir combien Dieu est bon. Nous sommes heureux parce que nous trouvons refuge en lui. Nous lui appartenons, alors reconnaissons son autorité, parce que si nous reconnaissons son autorité, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Les personnes riches peuvent éprouver la faim, la misère ou le manque, mais nous qui cherchons Dieu, qui le craignons et qui reconnaissons son autorité, nous, nous ne manquons absolument de rien. Alors chantons que le Seigneur règne. Est-ce que vous le croyez ? Chantons qu'il est tout-puissant. Est-ce que vous le croyez ?
Oui.
Chantons que par sa grâce nous sommes sauvés. Est-ce que vous le croyez ?
Oui.
Alors levez-vous et chantons-le. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a monté sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Allez. Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvé. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 le Seigneur. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Le Seigneur tout-puissant règne.
Alléluia, Seigneur.
Dieu, je veux te bénir en tout temps. Je ne veux jamais cesser de te chanter, de te louer. Alléluia, gloire à Dieu. Il est ma seule fierté. Vous qui êtes malheureux à cause d'un décès, à cause d'une maladie, à cause des soucis que vous provoquent vos études, votre travail, réjouissez-vous avec nous. Votre Dieu est puissant. Il est plus grand que tout. Alors chantons ensemble. Un grand Alléluia, ce qui veut dire gloire à Dieu.
Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Dignes-tu, ô notre Dieu? Majesté infinie, beauté sans égal, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Dignes-tu, notre Dieu?
Chantons Alléluia.
Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Dieu, à notre Dieu,
Est-ce que vous savez que Dieu garde ses yeux fixés sur les personnes justes et qu'il entend leur appel ? Dès qu'un juste appelle au secours, Dieu entend son appel, il lui donne sa paix, il le délivre de sa détresse. Dans toutes les circonstances, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont abattus. Face à un si grand amour, chantons toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Comme une seule personne, dites « je » comme si vous parliez au nom de l'Église. Est-ce que vous croyez cela de tout votre cœur, que toute votre vie, vous le suivrez, tout ce qui, comme vous l'avez suivi toute votre vie? Est-ce que vous ne vivez que pour lui? Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, proclamez-le, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, encore une fois. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Pour toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai Dieu.
Encore un extrait du psaume 34 pour introduire la Sainte Cène. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Prions. Notre Dieu, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Sa résurrection nous donne l'espérance, nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table maintenant où il nous invite. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur l'univers tout entier. Envoie sur nous ton esprit, afin qu'unis à ton Fils, nous puissions être porteurs de ta lumière, de ta saveur, de ta paix et de ton espérance. Amen.
Alors je vais lire dans Luc 22, les versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe, et après le repas, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous.
Voilà, on va prendre la scène. Vous connaissez les petits gobelets roses avec du jus de raisin et la coupe. Faites signe à Philippe. Et pendant ce temps, je vous propose un temps de silence, de recueillement, de méditation, de cœur à cœur avec Dieu. Un temps personnel. terminer ce culte. Et pendant que nous passons les offrandes, je vous invite à un dernier chant.
Vous savez, t'as voulu lever et puis à chanter, oh Dieu, tu es mon Dieu, je veux toujours te louer. Je te chercherai dès l'aurore, j'apprendrai à marcher dans tes voies pour nous consacrer nous-mêmes un peu.
Dieu, tu es mon Dieu. Je veux toujours te louer. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Et je veux toujours te louer. Je te chercherai dès l'aurore. J'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas conduit, c'est toi que je suivrai toute ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Je te chercherai dès l'aurore. J'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas tu me conduis. C'est toi que j'assurerai toute ma vie. Et pas à pas tu me conduis. C'est toi que je suivrai toute ma vie.
Vous pouvez rester debout pour la bénédiction finale. Terminons encore avec le psaume 34. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Que le Seigneur qui répond, qui délivre, qui entend, qui sauve, qui veille sur nous, nous donne la grâce d'être porteurs de sa saveur et de sa lumière dans le quotidien des jours qui sont devant nous. Bon dimanche.